le 22 mars. Mais comme notre église avait son assemblée générale l'après-midi, la préparation du culte, on l'a reporté à ce jour qui est le 3 mai. Et alors, l'avantage, c'est qu'on est plus près du 1er mai. Et vous savez ce qui se passe le 1er mai. C'est la fête du travail. En France, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais en fait, c'est en réalité la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. C'est un jour férié annuel qui a lieu le 1er mai dans plusieurs pays, mais certains autres pays ont d'autres dates. Par exemple, aux États-Unis, je crois que c'est le premier lundi de septembre, Labor Day. C'est un jour férié qui célèbre les conquêtes sociales des travailleurs et qui trouve son origine dans les combats pour la journée de 8 heures. C'était à la fin du 19e siècle. Donc, ce qui fait la semaine de 8 heures par jour. Eh non, 48 heures. Parce qu'à l'époque, on travaillait 6 jours. Il n'y a que le dimanche qui était férié et où on ne travaillait pas. Donc, vous voyez, aujourd'hui, en France, on est à 35 heures. Il y a eu encore un progrès de fait. Alors, le travail n'est pas une parenthèse dans nos vies. Il en est même souvent le fil rouge. Il rythme nos journées, façonne nos relations, nous met face à nous-mêmes, à nos limites, à notre persévérance, à nos découragements, comme à nos espérances. Et là, on n'est pas obligé d'avoir une acception du travail qui est limitée au travail rémunéré, au travail salarié. C'est toute forme d'activité que l'être humain a pour subvenir à ses besoins. Pour certains, il est source d'épanouissement. Pour beaucoup d'autres, c'est une lutte quotidienne. Pour d'autres encore, son absence est une blessure profonde. Pour les retraités, Manu l'a évoqué, pour qui l'activité rémunérée appartient au passé, le travail peut évoquer une période de moindre liberté, mais pas sans nostalgie pour certains. Pour les étudiants, ils travaillent déjà, mais en vue de trouver un travail salarié rémunéré, c'est source d'espoir, de projet, mais c'est source aussi d'inquiétude. Et vous pouvez penser à tous ces jeunes qui finissent leurs études et qui ne trouvent pas de travail, en tout cas pas tout de suite, en tout cas pas un travail comme ils l'espéraient. Les pays occidentaux ont expérimenté le drame que représente le chômage de masse, 5%, 7,5%, 10%. Et il y a même certaines catégories pour lesquelles le chiffre est beaucoup plus élevé. Si on regarde en France, par exemple, pour les moins de 20 ans, le chômage représente jusqu'à 15%, 20% dans certaines régions de la population de la tranche d'âge. Nous savons qu'il est préférable d'avoir un emploi que de subir une inactivité forcée. Mais cela n'empêche pas un certain nombre d'entre nous de penser que le travail reste un moindre mal. Nombreux sont ceux qui aimeraient pouvoir se dire, avec l'homme de la parabole, l'homme riche, qu'on trouve dans Luc au chapitre 12, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Après le péché, Dieu dit à l'homme qu'il mangera son pain à la sueur de son front ou de son visage. Ce sont ses efforts qui devront lui permettre de vivre. C'est avec peine qu'il tirera sa nourriture du sol. Donc on trouve ça dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et certains lecteurs semblent en avoir conclu que le travail était une conséquence du péché. Comme si le paradis perdu était un lieu de loisirs sans fin. Le club méditerranéen à l'ombre des arbres fruitiers. Pourtant, ce n'est pas ainsi que la Bible s'exprime. Manu l'a déjà évoqué, au commencement, Dieu donne une mission à l'homme et à la femme, être fécond, multiplier, remplir la terre et la soumettre. Ça, c'est au chapitre 1er de la Genèse. Et ça se décline par la suite avec le fait de cultiver le jardin et de le garder, et encore de donner un nom aux animaux. On trouve ça au chapitre 2 de la Genèse. C'est de cette activité qu'ils tirent leur nourriture. C'est en cultivant et en gardant le jardin qu'ils peuvent en manger les fruits et se nourrir. Décrivant l'ordre de la création dans sa bonté voulue par Dieu, le psalmiste parle du soleil qui se lève et nous dit ceci, et on retombe sur le verset que Manu a cité, mais je prends un verset avant. « L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. » Et le psalmiste ajoute immédiatement « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. » Donc là, psaume 104. « Que l'homme travaille est un reflet de la sagesse du Seigneur. » Dieu lui-même est un Dieu qui se présente comme un Dieu qui travaille, qui œuvre. Et dans Jean 5, 17, Jésus dit que « Jusqu'à maintenant, mon Père a été à l'œuvre, mon Père a travaillé, et moi aussi, je suis à l'œuvre, je travaille. » Et puis, vous vous souvenez que Dieu dit qu'il a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme en 6 jours d'œuvre, et le 7e jour, il s'est reposé. Dans ce cadre, notre activité fait sens. Les humains participent à un projet divin et se procurent ce dont ils ont besoin pour vivre. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec le travail? Eh bien, ce qui est une conséquence du péché, c'est que le travail est devenu pénible, difficile à accomplir, souvent frustrant et vécu dans la tension. Tous ceux qui ont un emploi ou une activité professionnelle le savent, et même ceux qui ne sont pas rémunérés pour leur activité. Le travail ne produit pas toujours les résultats que l'on en attendrait. Il est aussi un lieu d'exploitation et de manifestation de la méchanceté des êtres humains. C'est ainsi que Job fait, concernant les pauvres, le constat encore si actuel. Donc on trouve ça dans le chapitre 24 de Job. Ils sont tous nus et affamés. Ils portent les gerbes. Dans les enclos, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir, et pourtant, ils ont soif. Le texte biblique parle ici de gens qui ont un travail, mais qui ne peuvent pas en vivre dignement. Ils sont tous nus et affamés, leurs besoins terrestres de base ne sont pas satisfaits. L'ironie cruelle de leur situation est soulignée, car ils ont faim alors qu'ils transportent de la nourriture et ils ont soif au milieu du pressoir qui produit du jus de raisin. Peu de versets auparavant, il avait été dit qu'ils coupaient le fourrage dans la campagne et vendangeaient la vigne du méchant. Lorsque Dieu libère son peuple de l'Égypte, il le libère de la servitude, c'est-à-dire du travail forcé, mais pas du travail en lui-même. En Canaan, le peuple est incité à travailler, à cultiver le pays, à travailler 6 jours sur 7 même. La création a été soumise à la vanité, dit l'apôtre Paul, en reprenant le refrain de l'Ecclésiaste. On trouve ça en particulier en Romains, au chapitre 8 et au verset 20. Notre travail est marqué par les conséquences du péché, et ce serait une illusion de penser que nous pourrions les éradiquer de ce monde. Il est surprenant de constater à quel point nos exigences d'épanouissement dans le cadre professionnel semblent parfois faire l'impasse sur le fait que nous vivons dans un monde déchu. Dans ce monde blessé, le travail est parfois difficile à trouver. Beaucoup en cherchent sans en trouver. Or, l'absence de travail demeure l'une des premières causes de pauvreté. Elle ne prive pas seulement de revenus, mais aussi de reconnaissance, de place dans la société. Elle prive du sentiment d'être utile. Lorsque le travail disparaît, c'est souvent tout l'équilibre de la vie qui vacille. L'exclusion économique devient alors exclusion sociale et parfois exclusion intérieure lorsque l'espérance elle-même s'effrite. Ainsi, la pauvreté ne naît pas seulement de l'absence de travail, elle peut être aussi produite par le travail lui-même. Et ça, c'est un vrai paradoxe. Voilà l'une des grandes blessures de notre temps. De nombreuses femmes et de nombreux hommes travaillent dur, parfois à temps plein, sans pouvoir vivre dignement. Salaires insuffisants, contrats précaires, horaires morcelés, conditions éprouvantes maintiennent dans une survie quotidienne, laissant peu de place pour imaginer et préparer un avenir. Et pourtant, le récit de la construction de la tente de la rencontre que l'on trouve dans Exode montre comment l'esprit qui inspire la foi, l'esprit de Dieu qui se manifeste dans la prière ou dans la prophétie, est celui qui inspire aussi la créativité, la précision du geste, l'intelligence du métier. Et là, je vous invite à relire le chapitre 31 du livre de l'Exode. Nos compétences, nos aptitudes, nos talents et nos passions ne sont pas de simples qualités individuelles. Ils sont des dons reçus, confiés à notre responsabilité. Chaque personne reçoit d'une manière singulière le moyen de contribuer à la vie commune, aucune n'étant inutile ou secondaire. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous encouragent à travailler pour plusieurs raisons. Une des premières raisons qui est mise en avant, c'est exercer la générosité. Je vous lis quelques versets du chapitre 58 du livre d'Ésaïe à partir du milieu du verset 3. Ce que l'Éternel reproche en fait à son peuple, c'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Et au verset 6, « Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » Nous sommes invités aussi, avec ce que nous gagnons honnêtement, à contribuer à la solidarité et la générosité. On trouve ça dans une lettre de Paul, que le voleur cesse de voler, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains. Et l'apôtre nous dit, pourquoi ? Pour vivre ? Non, la raison pour laquelle il dit ça, c'est afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Générosité envers les frères et sœurs, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc là, c'est 2 Corinthiens 9. Et puis aussi pour survenir à nos besoins. Dans 2 Thessaloniciens 3:10, on a cette parole qui peut paraître dure. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors en conclusion, chers amis, chers frères et sœurs, le travail traverse toute notre existence. Il peut être source de joie comme de fatigue. Il peut être source d'accomplissement comme d'épreuve. Les Écritures ne nient aucune de ces réalités. Elles nous rappellent simplement ceci. Le travail est un don, un défi, mais aussi un chemin d'amour, de service et d'entraide. Cela invite chacun à une relecture personnelle, non pas « suis-je assez performant ?», non pas « ai-je réussi ma vie professionnelle ?», mais plutôt « où dans mon travail, ou malgré son absence, Dieu m'appelle-t-il aujourd'hui à faire son œuvre ?» L'exemple nous vient de notre Seigneur Jésus, qui est lui-même venu œuvrer, travailler au milieu des êtres humains. Il a partagé la condition ordinaire des travailleurs, connaissant la fatigue des mains, la fatigue du corps, la patience du geste répété, la discrétion d'un labeur sans gloire sur la terre. Le Fils de Dieu a aussi connu la sueur sur son visage en accomplissant la volonté de Dieu. Cela veut dire que rien de ce que nous faisons avec droiture, fidélité et amour n'est insignifiant. Aucun travail honnête n'est perdu aux yeux de Dieu. Même ce qui semble monotone, invisible ou ingrat peut devenir le lieu de communion et de collaboration avec Dieu, lorsqu'il est offert et vécu dans la confiance. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, à la fin du chapitre 15. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Et que chacun entende cet appel, travailler non pour se définir par la performance, non pour se laisser écraser par la fatigue, mais pour servir celui qui est la vie et participer humblement à l'œuvre de Dieu. Nous travaillons pour que la lumière brille, pour que le bien se multiplie, pour que le royaume de Dieu avance discrètement au cœur de nos bureaux, de nos chantiers, de nos foyers ou de nos salles de classe. Ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur. Et je rajouterai deux mots à cette méditation. Le premier, c'est que, bien sûr, nous sommes appelés à répondre aux besoins d'urgence. Mais ce que le sel met en avant, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'apporter de la nourriture dans des camps de réfugiés. Vous connaissez ce proverbe chinois, si tu donnes à manger à un homme, tu le sauves pour une journée. Si tu lui apprends à pêcher, tu le sauves pour sa vie. Eh bien, la réflexion de la Bible est un peu la même. Apporter de la nourriture à celui qui a faim, c'est ce qui nous est demandé. Mais permettre à celui qui a faim de pouvoir pourvoir à ses besoins en comptant sur la grâce de Dieu, c'est aussi un objectif. Et par exemple, le sel, non seulement donc apporte de la nourriture dans les points difficiles, et de par le monde, le nombre d'endroits où il y a des camps de réfugiés, ou même des réfugiés sans camp, est en augmentation. Alors, on ne va pas parler du Darfour, on ne va pas parler du Sud-Soudan, on ne va pas parler... Quand on fait la liste, c'est de plus en plus de gens qui... non seulement n'ont pas les moyens de pourvoir à leurs besoins, mais qui en plus n'ont pas de travail. Et vous savez qu'en France, par exemple, pour pouvoir travailler, il faut une autorisation. Il ne suffit pas simplement de trouver du travail, il faut encore pouvoir être autorisé à travailler. Et si vous n'êtes pas autorisé à travailler et que vous travaillez, à ce moment-là, vous êtes dans l'illégalité. Donc le SEL développe aussi des programmes de formation pour des enfants qui vivent dans des conditions en général de précarité, des familles pour lesquelles parfois l'un ou les deux parents sont sans revenus. Le SEL fournit des repas, fournit des cours, fournit de l'alphabétisation, envoie ses enfants à l'école, et c'est ce programme qu'on appelle le programme de parrainage. Et au bout du bout, après plusieurs années, un certain nombre de ces enfants témoignent de ce que non seulement ils ont eu à manger, mais ils ont appris aussi comment ils allaient pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Donc notre Église elle-même participe à ce programme par l'intermédiaire de l'école du dimanche. On a aujourd'hui deux enfants qui sont parrainés par l'Église depuis de nombreuses années. C'est un moyen d'œuvrer dans la durée. Ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Et là, l'apôtre évoque ceux qui sont serviteurs, ceux qui ont des maîtres. Et aujourd'hui, on pourrait dire ceux qui ont des patrons, ceux qui ont des obligations, etc. Une différence importante entre l'époque où le Seigneur et l'apôtre Paul ont vécu et aujourd'hui en France, c'est que la solidarité à l'époque était quelque chose d'individuel. On en appelait aux gens pour donner à manger aux pauvres, mais il n'y avait pas de solidarité institutionnelle. Et aujourd'hui en France, il faut reconnaître que le nombre d'aides qui existent, alors on considère parfois comme insuffisant, sont du ressort de la société. L'assurance contre le chômage, l'assurance contre la maladie, le revenu minimum, la retraite, etc., ce sont des institutions. Et la tentation pourrait être pour nous de considérer que c'est à l'État d'assurer la solidarité. Mais je pense que la parole de Dieu nous met face à nos responsabilités individuelles. Ce n'est pas parce qu'il y a de la solidarité organisée au niveau de l'État que nous devons nous considérer comme exonérés de notre responsabilité, et en particulier vis-à-vis de nos prochains, ceux qui sont juste à côté de nous, que ce soit dans l'Église, dans la ville où nous sommes, que ce soit auprès comme au loin. Voilà, donc cet appel résonne à nous solidariser avec ceux qui connaissent la difficulté, et en fonction de ce que le Seigneur nous met à cœur, de pouvoir, avec joie, partager ce qu'il nous a donné. Voilà, merci de votre attention. Je vous propose de prier pour finir ce moment de méditation. Oui, Seigneur, tu nous rappelles dans ta parole que nous devons être attentifs à ceux qui sont autour de nous, auprès comme au loin, et que nous ne devons pas renvoyer à vide celui qui nous sollicite. Nous devons être attentifs à celui qui a faim, à celui qui n'a pas de quoi se vêtir, se loger. Et nous te demandons non seulement de rendre nos cœurs sensibles à cela, mais de mettre sur notre cœur la volonté de pouvoir partager ce que tu nous as donné. Et partager, Seigneur, dans la durée, en fonction de ta volonté. Nous te demandons de pouvoir faire ça volontairement. Nous te demandons de pouvoir faire ça aussi avec joie. Au nom de Jésus. Amen.